I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On a le Nintendo Direct, on a Sifu, on a Lost Ark, on a GTA 6 et tout plein d'actu dans le rendez-vous jeu d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu numéro 227. On est en février, c'est le moment où tous les jeux sortent et en plus, toutes les news tombent, ça ne s'arrête pas. On pensait qu'on aurait un petit peu de temps pour parler d'étendue de tout ce qui se passe. Eh bien, il y a eu un Nintendo Direct qui est tombé hier. Il va falloir qu'on en parle également. Mais ça va aller parce que j'ai avec moi deux formidables invités pour vous parler et vous détailler tout ça. Et en plus de ça, je suis très très heureux de dire qu'il y a des nouveaux patriotes Ben Fer et Razi qui nous ont rejoints dans la formidable famille des patriotes et également Claude Girel, le producteur. Vous savez que maintenant on est arrivé au moment du patrioting où on peut citer les noms des patriotes qui viennent de nous rejoindre. Donc Ben Fer et Razi sont vraiment des tout nouveaux. Tout beau, ils sortent de l'œuf et on est très heureux de leur faire des bisous et des câlins. Évidemment, Claude Girel, producteur, qu'on remercie chaque mois. Juste avant de me lancer dans les présentations et les news, deux choses. D'abord, les after-shows, justement, puisqu'on parle de Patriot. Pour le futur plus ou moins proche, on va faire des after-shows en bonus pour les Patriotes avec les jeux des auditeurs, les Patriotes qui sont Patriotes, non pas ultra, mais sublimes, au niveau sublime, ils sont vraiment sublimes, eh bien, ils nous rejoindront pour parler des jeux auxquels ils jouent en ce moment. Ça nous permettra peut-être d'avoir des jeux auxquels dont on n'a pas parlé ou pas parlé assez longtemps dans l'émission principale. Et en plus de ça, un truc très cool que je voulais vous détailler, c'est que je vais participer en mars, début mars, pour le week-end du 4 au 6, à un événement caritatif qui s'appelle Battle For, qui aura lieu essentiellement au Stade de France, mais il y aura aussi toute une équipe de streamers en remote qui vont streamer. Alors dans mon cas, c'est le week-end avec les enfants, mais je streamerai quelques heures pendant le week-end en essayant de lever de l'argent au profit de Handicap International et une association qui s'appelle Apart. Je suis assez excité par cette idée. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore comment je vais les faire. C'est la première fois que je fais ça. Mais ça sera du 4 au 6. Je vous en reparlerai évidemment. J'espère que vous serez présents et nombreux à ce moment-là. Bon, tout ça étant dit, maintenant, le moment le plus sympathique, celui où on dit bonjour aux invités. D'abord, Escarina, qui est là tous les mois. Bonjour, Esca, comment vas-tu ?
Salut Patrick, bah écoute, ça va bien, ça va bien. Mes gros soucis du mois passé que j'avais évoqué avec vous sont partis. On a fini avec le Covid, on a pu partir en vacances, donc du coup, tout me semble plus rose aujourd'hui. En plus, j'ai eu le temps de jouer, on en reparlera tout à l'heure, donc tout va bien.
Excellent, excellent. Et un invité de marque qui nous rejoint aujourd'hui, Oscar Lemaire, du haut de sa pile de chiffres et d'analyses sur Twitter et sur Ludostri, qui se joint à nous, comme il le fait parfois. Merci beaucoup d'être là, Oscar. Comment vas-tu ?
Ça va, ça va. On fait aller.
Ouais, t'es voilà.
C'est mitigé là.
J'ai l'impression que tu es un petit peu éreinté par la période des chiffres et que tu passes tellement de temps et tellement d'efforts à analyser tout ça. T'as l'air un peu fatigué, dis-moi.
Oui, pas mal. Non, j'ai eu une semaine compliquée, mais là, ça va un peu mieux. Là.
Très bien, très bien. Eh bien, écoute, tu nous éclaireras de tes connaissances en parlant de chiffres un petit peu plus tard et de résultats financiers, parce qu'il y a des enseignements intéressants à en tirer. Mais On va commencer par le Nintendo Direct qui a eu lieu cette nuit. Vraiment, c'est tout frais, tout beau. Et il y a eu pas mal d'annonces, quelques trucs un petit peu inattendus, quelques trucs assez malins de la part de Nintendo. Et donc, peut-être que je ne vais même pas en faire le résumé. Je vais vous demander à tous les deux directement quelle est l'annonce qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus plu. Je pars du principe que vous avez un petit peu suivi tout ça. Mais Oscar... Bon, c'est forcément le cas. Je sais que Nintendo, c'est un petit peu ta marotte, ta passion. Quelle est l'annonce qui t'a le plus intéressé dans toutes celles qu'on a eues hier, enfin, cette nuit ?
Ah, c'est difficile d'en choisir juste une. mais je crois que ce qui m'a le plus marqué, quand même, c'est Live Alive. Le remake de Live Alive qui a le droit à une localisation, ce qui est un peu ce qui est presque inespéré, quoi, parce que c'est un jeu qui a jamais été localisé, quoi, et qui enfin a le droit à une localisation, y compris en français, qui a le droit même à une sortie boîte, et même carrément qui est pas, enfin, c'est pas juste un de l'émulation, quoi, c'est le traitement remake HD 2D de Square Enix, donc je trouve que c'est une super nouvelle, quoi.
Tu peux nous rappeler ce que c'est Live Alive ? Moi, je t'avoue que je connaissais le nom, mais j'avais pas trop de je connaissais pas vraiment le jeu, et de fait, il était sorti qu'au Japon. Mais c'est un RPG un peu particulier avec une prémisse assez intéressante. Tu peux nous en dire deux mots de plus ?
Oui, bah après c'est, enfin, écoute, je pense que le mieux pour comprendre ce qu'est Live Alive, c'est qu'il faut comprendre Takashi Tokita, qui est Takashi Tokita, qui si tu veux, les premiers Final Fantasy de Squaresoft, donc sont réalisés par Sakaguchi, et qui c'était au tout début, à l'époque de la NES, il est beaucoup aidé par deux personnes, à savoir Koichi Ishii et Akitoshi Kawazu, qui ensuite, à l'époque de la Super Nintendo, vont laisser tomber les Final Fantasy. Il y en a un qui va s'occuper des Romancing Saga, et l'autre qui va s'occuper des Seiken Densetsu, donc les plus connus sous le nom des Mana, les Secret of Mana, etc. chez nous. Et quand Sakaguchi fait Final Fantasy IV, il choisit Takashi Tokita pour l'aider, et en gros Tokita c'est le véritable réalisateur de FF4, et ensuite Tokita va être appelé à l'aide sur un certain jeu qui est assez connu, qui s'appelle Chrono Trigger, et donc il va aussi être le co-réalisateur de Chrono Trigger, et entre les deux il a fait un jeu atypique qui est Live Alive, qui du coup est un jeu un peu particulier, parce que dans la période Super Nintendo de Squaresoft, c'est un peu le jeu unique qui a jamais eu de suite et qui est jamais sorti du Japon, et qui pourtant est vraiment un morceau de l'histoire du RPG, enfin qui est un classique assez incroyable, mais qui est resté totalement isolé, quoi, sans avoir à la fois de localisation ou de ressortie, etc. Et donc là enfin on y a le droit, donc voilà, le jeu en lui-même est très particulier et très ambitieux, mais simplement faut avoir conscience de ça, quoi. C'est un authentique morceau de l'histoire de Squaresoft auquel on a enfin droit aujourd'hui, quoi.
L'un des éléments qui est différent de ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'il y a quoi, 5, 6, 7 chapitres différents, et chacun est situé dans une époque différente, enfin dans une période différente de ce monde. Ça va du médiéval, peut-être même encore plus ancien, jusqu'au...
Préhistoire même.
Ouais, préhistoire, et jusqu'au futur lointain. Il y a genre préhistoire, médiéval, époque actuelle, futur proche, futur lointain. J'imagine que l'histoire est liée, mais l'idée... qu'on voit un monde évoluer. Moi, je ne le connais pas, effectivement, ce jeu, mais l'idée qu'on voit le monde évoluer sur toute cette période, c'est vraiment un truc différent qu'on n'a jamais vraiment vu. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Mais ce n'est pas le seul RPG historique qui a été annoncé avec soit des vrais remakes, soit des simples portages, mais on a Chrono Cross et Front Mission aussi. Et si je reprends ma liste, j'ai l'impression que c'était... que c'était même pas les seuls. Bon, en plus de Advance Wars, il y a No Man's Sky qui arrive sur Switch. Quoi d'autre ? Ah oui, Earthbound Mother qui arrive le 9 février. Je l'ai pas dit, mais Live Alive, c'est Ah, je ne vais pas dire de bêtises, je reprends l'article. 22 juillet, selon Gamekult. Donc, c'est un peu tout dans les 6 prochains mois. Il y en a des tonnes qui sortent. Et c'est des réponses aux fans. Bon, pas de traces de Mother 3, mais quand même, le 1 et 2 qui pointeront le bout de leur nez, ça fait... ils banquent à fond sur la nostalgie, ce qui est, ils n'ont pas tort de le faire. Hein. Mais c'est vrai que Live Alive, il a un traitement vraiment... spécial, parce que c'est un vrai remake et c'est un jeu qui a l'air dans ce style-là, graphiquement hyper réussi, quoi.
Oui, bah ouais, c'est le rendu de d'Octopath Traveler, qui est aussi utilisé pour le futur remake de Dragon Quest 3. Donc ouais, c'est un rendu, c'est plus, c'est effectivement, enfin, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça, je trouve l'approche pas mal et assez efficace pour moderniser les jeux de l'époque Super Nintendo, quoi.
On est d'accord, c'est un résultat vraiment probant au niveau graphique. Donc ouais, c'était un peu la fête des anciens, des anciens RPG que tout le monde aime et de certains qui sont un petit peu moins connus. Mais vraiment, Live Alive, il a fait impression chez ceux qui savent. Donc je suis très curieux de voir effectivement ce que ça donnera. Escarina, est-ce que toi, tu as un choix différent pour le truc que tu retiens ?
Bah écoute, moi je suis un peu passée à côté de ce Nintendo Direct, il y a aucune annonce qui m'a vraiment interpellée, tout simplement parce que je pense que je suis pas le public des annonces qui ont été faites. Le seul truc que je retiens, c'est les nouvelles maps pour Mario Kart 8 la déferlante, c'est peut-être un bien grand mot, mais j'ai vu passer quelques tweets un peu énervés de gens qui nous disent au lieu de bosser sur Mario Kart 9, on n'aura rien avant 2024, ils nous recyclent encore des maps. Ok, next. Juste, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je me le reprenne sur Switch parce que je l'avais sur ma Wii U et du coup je me suis séparée de ma Wii U et donc du jeu. Et je suis en train de me dire qu'en fait, moi ça m'intéresse d'avoir des maps en plus auxquelles j'avais pas pu jouer sur ma Wii U. Et je suis en train de me dire que du coup je vais peut-être craquer un peu tardivement et me l'acheter sur Switch.
Bah, c'était une grosse annonce à plus d'un titre. Hein. Ils ont, je ne sais plus combien, genre 35, 38 cartes qui vont arriver.
Je crois que j'avais vu 48 même. Enfin, je sais plus.
C'est possible. Ouais. Enfin, c'est vraiment un chiffre impressionnant. En plusieurs vagues, oui, c'est ça, tu as raison. 48 cartes
maps,
tirées
ouais.
Des anciens Mario Kart qui sont refaites pour Mario Kart 8 Deluxe. En plusieurs vagues, il y aura genre 5 ou 6 vagues différentes. Mais c'est vraiment notable pour plusieurs raisons. Parce que, bon, d'une part, là, je me retourne vers Oscar. Mario Kart 8 Deluxe, c'est le jeu le plus vendu de la Switch, mais je me demande si c'est pas l'un des jeux les plus vendus de l'histoire de Nintendo, si on compte pas les jeux inclus dans des packs. Il est à 43 millions d'unités.
J'avais lu qu'il avait été vendu plus que Wii Sports.
Wii Sports était inclus dans la Wii. Mais pardon, je te laisse préciser.
Ouais, en fait, c'est Wii Sport est le seul qui s'est mieux vendu que.
Ah, c'est peut-être ça que j'ai lu du coup.
que Mario Kart 8 Deluxe, mais oui, enfin comme il était inclus dans la Wii, alors pas au Japon, hein, uniquement en Occident, mais du coup c'est de la triche quoi, effectivement.
Ouais.
C'est, forcément, Wii Sport est imbattable, mais sans ça, ouais, Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo quoi.
Et du coup, c'est hyper malin ce qu'ils font, parce que bien sûr, c'est une extension qu'ils vont vendre à des millions de personnes qui ont déjà Mario Kart 8. Et comme on vient de le dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont déjà Mario Kart 8. Mais surtout, ce qui est hyper malin, c'est qu'il sera inclus dans le Nintendo Switch Online Expansion Pass, qui confirme son astuce de comment tirer des sous, encore plus de sous des gens qui sont abonnés, ben en leur filant des extensions entre guillemets gratuites ou incluses. On avait déjà celle d'Animal Crossing qui s'est pas vendue à 3 exemplaires non plus. Et là, avec l'extension pour Mario Kart 8, le prix de l'extension du DLC est équivalent à peu près un an de online étendu, donc seulement la partie supplémentaire qu'on paye pour avoir droit à tous ces petits bonus. Mais moi, je trouve ça vachement malin parce que, ok, peut-être que Animal Crossing, ça vous intéresse pas, peut-être que Mario Kart 8, ça vous intéresse pas, mais au bout d'un moment, il va y en avoir qui vont vous intéresser et ils seront inclus dans cette extension. Et quand il commence à y avoir plusieurs extensions de jeux que vous avez, au bout d'un an, deux ans, ce que c'est, on va finir par se dire « Ok, je vais la prendre et y a des petits trucs en plus. » Et ça finit par valoir le coup. Moi, je trouve ça hyper malin.
Est-ce que tu peux bénéficier de ça en utilisant le système de compte familial online? Parce que du coup, si c'est le cas, tu peux encore plus réduire le coût en
oui.
partageant le...
Ah, bah, oui, c'est possible, ouais.
Du coup, ça rend la chose d'autant plus intéressante.
Là, on vient de convaincre Escarina d'acheter Mario Kart 8 Deluxe sur...
C'est le Game Pass du Nintendo qui commence, Patrick.
C'est ça. Mais ils sont tellement malins chez Nintendo. C'est leur Game Pass, sauf qu'ils te filent du contenu pour des jeux que tu dois avoir. Si t'as pas déjà les jeux, bah t'as rien. Donc, les gens qui sont abonnés peuvent se dire « Oh bah, du coup, je vais acheter le jeu, j'aurai des trucs en plus. » Ça encourage encore plus de gens à l'acheter. Bon, je sais pas qui reste sur Nintendo Switch qui n'a pas déjà Mario Kart 8, mais...
Pas moi.
Oui. Bah voilà, c'était toi. Et du coup, maintenant, t'es convaincu. Ils ont réussi.
Mais en plus, alors c'est vrai que ça peut sembler être de la flemme de réadapter des vieilles maps plutôt que de mettre de nouvelles maps exclusives. Ils avaient fait ça sur la fin de la Wii U. Ils avaient rajouté des maps Zelda et des maps... c'était peut-être des maps Animal Crossing, d'ailleurs. Ils avaient fait un peu un modèle un peu similaire et ils avaient mélangé l'ajout de maps exclusives avec l'ajout d'adaptation d'anciennes maps. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment que des anciennes maps.
Ouais,
moi, j'aime...
Ça, ouais.
Moi, j'aime bien rejouer aux anciennes maps. Ça me fait super plaisir, quoi. En fait,
ah, oui.
Y a un...
Le truc, c'est que d'un côté, t'as des anciennes maps, tu retrouves des anciennes maps, mais t'as aussi certaines maps qui... Enfin, typiquement, quand ils reprennent des maps de l'épisode Super NES ou de l'épisode Game Boy Advance, ils les refont intégralement, quoi. Enfin, c'est comme si c'était une nouvelle map, quoi. Ils ajoutent plein de trucs, donc c'est... Enfin, voilà, c'est... Et puis, en plus de ça, t'as les maps de l'épisode mobile. Enfin, moi, je sais que personnellement, l'épisode mobile, j'ai pas du tout accroché. Et du coup, je connais pas quasiment ces maps-là, et c'est l'occasion de les découvrir aussi.
Tout à fait,
carrément.
Ouais. Donc, il y a quand même de la nouveauté. Et puis bon, soyons sérieux, c'est un moyen très très malin pour Nintendo de monétiser encore plus ce truc qui est un succès interplanétaire et de vendre leur pass avec Expansion Pass, machin. C'est hyper malin. C'est une approche qui est différente de celle des autres et qui est vraiment ingénieuse,
après...
surtout.
Après aussi, pour revenir sur les critiques, ils font ça plutôt que faire un nouveau jeu. En fait, moi, je trouve ça aussi intéressant dans le sens où Nintendo, ils ont une approche de faire un seul Mario Kart par console. Et notamment parce que Mario Kart, c'est une formule qu'on a du mal à faire évoluer. Et du coup, ils ne peuvent pas en sortir plein. Sinon, la formule s'épuise, quoi, et on est lassé trop rapidement. Donc, je trouve ça plutôt malin de se limiter à un épisode par console. Et en même temps, voilà, il y avait cette demande de nouveaux contenus. Et même si ce sont des maps rétro, c'est 48 circuits, c'est l'équivalent d'un jeu complet, quoi.
Et ça arrive.
On est servi, quoi.
Et ça arrive semaine, enfin par vague, sur plusieurs mois. Donc ça fait un petit peu jeu service, ça fait un petit peu de pub autour du truc. Enfin, c'est assez parfait.
Pour le streaming, c'est très pertinent aussi.
Par exemple, oui.
Le jeu va être streamé au fur et à mesure des vagues et va bien être mis en valeur dans ce sens.
Jeu service Nintendo, en quelque sorte.
Et puis de toute façon, dites-vous que les cartes qu'ils font pour Mario Kart 8, ils les réutiliseront pour Mario Kart 9. Donc quelque part, c'est un peu comme s'ils étaient déjà en train de commencer. Non, mais je pense par contre, il y a beaucoup de gens qui doivent considérer que Mario Kart 8 est un épisode Wii U et pas un épisode Switch. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette attente.
Il n'y a que toi qui t'en souviens de la Wii U. Personne l'a eu, personne n'y a joué.
C'est un cadeau, j'y suis pour rien.
Mais pareil, exactement. Moi, je l'ai eu aussi et je l'ai beaucoup apprécié, mais oui, bon, on est d'accord qu'à 13 millions d'unités pour une console Nintendo, c'est presque comme si ça comptait pas, quoi. D'autres choses qui ont été annoncées, qui sont notables également, Xenoblade Chronicles 3 qui arrive en septembre, ça c'était la grosse surprise à la fin, qui en ravira plus d'un. Évidemment, Switch Sports, comment il s'appelle ? C'est Nintendo...
Nintendo Switch Sports.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est Wii Sports, mais pour Switch. Alors, il y a trois anciens jeux de Wii Sports et trois nouveaux qui sont spécifiques à la Wii. Et bon, bah, c'est Nintendo Wii... Enfin, c'est Wii Sports, voilà, mais en version Switch. Je ne pense pas qu'on a besoin de détailler tout ce dont il s'agit. Je pense que ça marchera moins bien qu'à l'époque de la Wii. Mais... pourquoi pas, hein, tant qu'à recycler des choses, autant se servir de ces Joy-Con. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont ils montrent les joueurs jouer au truc pour montrer ce qu'il faut faire. Ils sont tellement calmes, ils font des petits mouvements calculés, pas de grands balançages de bras. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la réalité. J'ai trouvé ça très drôle. Et puis, un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est Fire Emblem Warriors Three Hopes, qui est du coup une sorte de spin-off, de suite à Fire Emblem Three Houses, que j'avais beaucoup aimé à l'époque et auquel j'ai pas mal joué, qui est Musso. Mais dans l'univers de Fire Emblem, ils sont tellement malins la manière dont ils déclinent leur Musso. C'est Koei Tecmo, hein, Musso, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est bien ça. Mais, oui. Et en particulier chez Nintendo, le Zelda était super bien fait et complètement approprié avec tous les personnages. Là, c'est idéal parce que tous ces personnages dont tu te souviens, avec qui tu as passé énormément de temps dans l'académie, tu vas les jouer en troisième personne avec des centaines d'ennemis à faire exploser. C'est hyper malin. Moi, je crois que c'est le jeu qui m'a le plus attiré l'œil. J'ai jamais fait un Musso du début à la fin. Bon, je sais pas si je ferai celui-là du début à la fin, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très malin comme adaptation. Et puis, il ne faut pas oublier non plus Mario Strikers Battle League. Je n'arrive pas bien à réaliser si c'est un truc qui est très populaire, Mario Strikers. C'est le jeu de foot avec Mario, mais les réactions avaient l'air assez positives sur Twitter, comme à chaque fois que Nintendo annonce quoi que ce soit, évidemment. Mais je crois qu'il y a des fans de la série qui attendaient un retour de Mario Football. Et bon, c'est là, ils seront servis. Je ne me souviens plus quand il arrive. Je ne sais plus.
En juin, je crois.
Le 10 juin, voilà, exactement. Et Three Hopes, c'est très bientôt, si je ne me trompe pas. Là aussi, je vais essayer de retrouver la date que je ne retrouve pas. On va aller au bout du trailer, le 24 juin. Donc, on n'est pas loin l'un de l'autre. Donc, ouais, Mario Strikers, moi, je ne suis pas spécialement... Enfin, je ne connais pas bien la série, mais clairement, elle a ses fans. Donc, ça fait du contenu pour la Switch. Et c'était que, entre guillemets, en étant un tout petit peu, mais que les 6 prochains mois. Il y en a qu'on saute. Hein. Il y a genre Splatoon 3, il y a eu une petite démo du mode coop. Il y a des nouveaux modes super durs et super faciles pour Metroid Dread. Il y a eu un petit passage sur Kirby et la manière dont il peut avaler des voitures et se transformer en voiture, etc., etc. Donc, il y avait quand même, c'était pas le meilleur Nintendo Direct de l'histoire, mais il était quand même assez bien rempli, j'ai trouvé. Il y avait des annonces. Et justement, puisqu'on parle de Nintendo, ils ont annoncé leurs résultats comme toutes les autres grandes sociétés ces dernières semaines. Il y a quelques trucs à noter du côté de Nintendo spécifiquement. D'une part, le fait qu'ils ont parlé de l'intérêt qu'ils pourraient avoir à racheter des sociétés comme le font Microsoft et Sony. Et ils ont dit, en gros, nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que nos studios et nos développeurs ont un ADN Nintendo qu'il est important d'avoir. Donc, on pense que ça n'améliorerait pas, ça ne bénéficierait pas à nos jeux. Quand on voit tout ce qu'ils sont capables de sortir, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, effectivement. Mais c'était une réponse assez intéressante. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais racheté de studio, au contraire. Mais bon, ils préviennent les marchés qu'il n'est pas prévu pour eux de faire de gros achats, ce qui se comprend. Et puis, il y a eu un autre élément qui était intéressant à noter, je trouve, c'est la différence entre les revenus et les profits. Bon, il y en a deux en particulier, parce que Microsoft ne donne pas ses chiffres de profits, mais Sony a eu en revenus 25 milliards de dollars pour des profits de 2,6 milliards. Nintendo, dans le même temps, a fait 15 milliards de revenus, donc 10 milliards de moins, mais des profits presque deux fois plus élevés, de 5,4 milliards. Alors évidemment, c'est une période où Sony vend des consoles, donc les profits sont moins importants sur les consoles, et parfois même ils vendent à perte, mais c'est quand même impressionnant de voir le rapport profit-revenu de chez Nintendo. Est-ce que c'est un truc qui t'a marqué ou c'est juste dû à la configuration actuelle avec la nouvelle génération, Oscar, ou est-ce que c'est toujours le cas pour Nintendo? Ils font tellement plus d'argent. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants de noter dans tes études et analyses?
Oui, c'est assez classique, hein, cette différence. C'est-à-dire que, bah, comme tu dis, ouais, il y a le cas des consoles, alors que Nintendo, ils font attention à faire de la marge sur absolument tout ce qu'ils font, y compris les consoles. Et puis, bah, après, c'est aussi une différence de configuration sur le fait que Nintendo se repose beaucoup plus sur les jeux first party. Ils gagnent surtout de l'argent grâce à ça, grâce à leurs jeux first party et avec des productions qui demandent beaucoup moins de moyens que dans l'industrie du AAA en général, hein, pas que par rapport à Sony ou Microsoft.
C'est vraiment la caractéristique de Nintendo. Ouais, comme tu le dis, dès le lancement de la Switch, ils gagnaient de l'argent dessus, ce qui n'est évidemment pas la configuration traditionnelle des lancements de consoles. Y a d'autres choses que tu as notées dans les différents résultats qu'on a eus ces dernières semaines? Il y a eu beaucoup, beaucoup de chiffres et beaucoup de choses. Je ne sais pas si on peut caler dans ce segment les résultats de Platinum, qui annonce vouloir faire des jeux qui peuvent être appréciés sur plus longtemps. Et ce que ça veut dire, on est d'accord, Oscar, ça c'est des jeux services, quoi. Platinum va se mettre ouais, à faire des jeux services, on imagine.
Oui, bah après, ça c'est leur projet en tant que jeu autofinancé. Mais enfin, de toute façon, c'est la direction générale. C'est-à-dire que si tu veux faire un résumé simple des bilans financiers, c'est que tout le monde se porte très bien. Tout le monde gagne beaucoup d'argent en ce moment et c'est principalement grâce aux jeux services, en fait, aux microtransactions qui deviennent de plus en plus importantes dans les revenus des éditeurs. Donc forcément, ceux qui n'en font pas ou peu se penchent de plus en plus sur la possibilité. Enfin, on le voit avec Sony et son rachat de Bungie et les ambitions qu'ils ont affichées de sortir 10 jeux services d'ici, je ne sais plus c'est quoi, 2024, un truc comme ça.
2026. Mais j'y repensais il y a quelques jours, ça fait quand même optimiste. Deux par an, quoi. Plus de deux par an. On est en 2022, deux jeux services par an. Alors peut-être qu'ils comptent Destiny dans le lot, et puis il y en a d'autres.
Ouais, et puis peut-être qu'ils comptent, parce qu'on peut compter aussi MLB. D'ailleurs,
MLB The Show, ouais, leur jeu de baseball.
Ouais.
Qui arrive sur
autre
Switch
truc intéressant, voilà, du fait qu'il y a carrément un segment, un jeu Sony qui a eu un segment dans un Nintendo Direct, c'était assez atypique.
Ouais.
Mais oui, du coup, oui, c'est un jeu service aussi, donc peut-être qu'il le compte, peut-être qu'il compte Gran Turismo aussi, je sais pas. Mais en tout cas, enfin, il y a quand même un truc nouveau de la part de Sony d'aller là-dedans et ouais, Platinum, du coup, eux, ils sont dans leur délire de ne plus faire que des jeux de commande pour d'autres éditeurs, mais de faire des jeux qui leur appartiennent intégralement. Et du coup, je pense que ils regardent la configuration actuelle et ils se disent là où il y a le plus d'argent à se faire, c'est les jeux services, quoi.
Clairement. C'est pas un truc qui me désole. On a vu beaucoup de gens dire « Oh non, encore des jeux services, machin ». J'ai pas l'impression. C'est la partie un petit peu éditoriale. On dit ce qu'on pense. Moi, j'ai pas l'impression que ça se fasse au détriment des jeux solo. Et Platinum, d'ailleurs, ils annoncent vouloir passer de 300 à 500 employés. Alors, on parle d'eux parce que c'est un petit peu emblématique, peut-être. Mais l'idée, c'est pas d'arrêter de faire des jeux solo pour faire que du jeu service, ni pour eux, ni pour personne. Mais les deux peuvent coexister. Et puis, il y a un marché pour les deux. Donc, moi, ça me dérange pas vraiment. Est-ce que ça te fait peur, toi, Oscar, cette tendance où les gens perdent?
Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que, excuse-moi, mais regarde Valve par exemple. Compare la quantité de jeux qu'a sorti Valve avant de se mettre au jeu service et la quantité qu'ils ont sorti après. Enfin, tu vois, il y a quand même un aspect. Forcément, si un jeu service, ça implique de continuer à avoir des gens en permanence dessus et donc ça limite la quantité de jeux que tu peux faire derrière, quoi. Tu peux dire la même chose, genre Epic Games, quoi. C'est pareil, ouais. Epic Games, à une époque, ils sortaient un Gears of War tous les 2-3 ans. Là, depuis qu'ils ont sorti Fortnite, bah, ils font rien d'autre que Fortnite, quoi.
Je trouve que tu prends des exemples qui sont quand même très particuliers parce que Valve, ils ont tellement d'argent avec le store, avec Steam, et tu sais comment ils fonctionnent, Valve. C'est genre chacun qui veut faire quelque chose se met à bosser sur un truc. Dans son coin, dans la boîte, il n'y a pas de structure hiérarchique. Personne décide rien, visiblement. Et là, ils se sont dit, oh, si on faisait une Switch, ah ouais, ok, allez, on va faire une Switch, très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les images du Steam Deck à côté d'une Switch. C'est genre, déjà la Switch, elle est grosse, mais la Steam Deck, c'est genre une fois et demie la taille, c'est impressionnant. Mais disons que je comprends la préoccupation, mais dans la pratique, on voit quand même toujours sortir énormément de jeux solo aussi, et pas que des petits d'indés.
Oui, non, mais oui, si tu prends d'un point de vue général, moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est-à-dire que les jeux solo auront toujours une place, il y a toujours un public pour ça, et par ailleurs, les jeux solo aussi profitent d'une époque qui leur est favorable, dans le sens où ils vieillissent moins rapidement et ils sont en permanence en vente grâce aux boutiques en ligne, aux dématérialisés. Et donc, ils ont une durée de vie commerciale qui est accrue aussi. Donc, les jeux solo aussi rapportent plus d'argent qu'autrefois. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, si un studio décide de s'orienter vers du jeu service, ça va lui prendre énormément de temps. Mmh. Enfin, tu vois, je t'ai sorti quelques exemples, mais je peux t'en sortir plein. Je veux dire, BioWare, là, ils reviennent du jeu service, mais regarde le temps que ça leur a pris, ce développement d'Anthem, développement raté, et après, derrière, à réfléchir, à essayer de vouloir relancer Anthem, etc. Enfin, ça bouffe énormément de temps. Donc, que Sony s'oriente vers les jeux services, je trouve ça malgré tout inquiétant de ce point de vue-là, quoi.
Et pour Platinum en particulier, ce que tu crains, c'est que les jeux services prennent tellement de temps qu'ils se mettent à... qu'ils n'aient plus la... C'est pas un énorme développeur, ils n'ont pas 40 studios, donc qu'ils n'aient que enfin, l'énergie et la force de travail que pour faire ça, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que, de manière générale, les développements nécessitent de plus en plus de ressources, que ce soit solo ou jeux services. Mais les jeux services particulièrement, enfin, si le jeu service fonctionne, bah derrière, il faut énormément de monde pour le gérer, pour maintenir le succès, etc. Et forcément, ça pose problème derrière pour faire d'autres jeux, quoi.
En même temps, alors je ne suis pas le plus grand fan du monde des jeux Platinum, mais est-ce qu'on peut demander à Platinum de faire les mêmes jeux ad vitam de la même manière? Bon, il y a peut-être un grand écart entre faire les mêmes jeux et se mettre à faire du jeu service. Bon, espérons. Ce que je souhaite, clairement, ils ont l'intention de s'y mettre. Ce que j'espère pour les fans des jeux Platinum et du studio, c'est que ils n'arrêteront pas de faire aussi des jeux dans la veine de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Moi, je me dis que c'est possible, mais j'entends tes inquiétudes, Oscar, effectivement.
Non, mais puis après, je leur jette pas la pierre non plus. Enfin, je veux dire, Platinum, ils sont dans une situation compliquée depuis leur naissance. Où voilà, ça a toujours été un peu difficile de survivre. Enfin, il y a eu l'histoire de Nier Automata où ils ont expliqué que ça a sauvé l'entreprise parce qu'ils étaient financièrement vraiment pas bien avant ça. Enfin voilà, dans leur optique actuelle d'essayer de faire des jeux autofinancés, ce qui est un pari risqué, je comprends aussi qu'ils se disent on pourrait tenter ça, quoi. On pourrait tenter ça parce que si ça marche, bah après notre avenir est assuré, quoi. Je comprends qu'ils soient à la recherche de cette stabilité financière, quoi.
Donc, pour résumer, tout va bien pour tout le monde dans l'univers des jeux vidéo. On peut peut-être, juste avant de passer au jeu auquel on a joué, mentionner que pendant les résultats de Take-Two, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de développer le successeur à Grand Theft Auto et qu'il était bien avancé, enfin que le développement était bien avancé. Alors ça, c'est pas une information qui est très surprenante en soi, mais j'en profite du coup pour pousser un mini coup de gueule que j'ai poussé sur Twitter au moment de cette annonce, parce que on a vu beaucoup de gens faire des remarques un petit peu acerbes sur la news, sur l'info, sur le thème. Alors, il y avait d'une part, oh là là, comme c'est surprenant, on ne s'en doutait pas, évidemment, clairement, on s'en doutait. Mais il y avait aussi un petit courant genre, ah ben bravo les journalistes, voilà, on fait des news pour du clic, pour dire que GTA 6 est en développement, ha ha ha, comme si on ne le savait pas, c'est ça le travail de journalisme, bien joué. Et ça m'a beaucoup énervé. C'était pas que des randoms qui ont dit ça, il y a eu des gens tout à fait, enfin, des gens que je connais, qui se sont vautrés dans ce genre de plaisanteries qui, pour moi, sont pas vraiment appropriées parce que... Alors d'abord, évidemment que c'est une info, évidemment que c'est une news. On passe du domaine de la spéculation. Oui, c'est très, très, très plus que probable, c'est certain, mais c'est quand même de la spéculation. Quand le développeur, l'éditeur le confirme, ben on passe de la spéculation à l'officialisation. Et bien sûr qu'un site de presse va en parler. Sinon, c'est quoi l'objet ? C'est comme quand Sony avait annoncé le nom de la PlayStation 5 et ils ont dit « c'est la PlayStation 5 ». Et tout le monde était évidemment tombé de sa chaise de surprise. Mais il n'empêche, quelle est l'alternative ? Genre, les sites de jeux vidéo, de presse de jeux vidéo, dont c'est le métier de vous informer, ne vont pas vous dire que le nom a été officialisé ou que le titre a été officialisé ? Bien sûr qu'il doit dire, bien sûr que c'est une news. Et à côté de ça, le ton « ah bah bravo le journalisme », ça me paraît vraiment dommageable parce que ça contribue à la décrédibilisation de ce métier et à la toxicité envers les journalistes de jeux vidéo qui vraiment n'ont pas besoin de ça. C'est pas facile d'être journaliste sur un site de presse JV, on s'en prend déjà beaucoup dans la figure et vraiment on n'a pas besoin de ça en plus. Donc je voulais le mentionner, c'est pas à la fin du monde, mais je voulais le mentionner quand même parce que ça m'avait un petit peu fait tiquer, on va dire. Tout ça pour être genre super edgy, genre voilà les journalistes, les news, machin. Bon, bref. Donc, le résumé, c'est que tout le monde va bien. Tout le monde se porte bien dans le domaine du jeu vidéo. Bonne nouvelle. C'est cool. Alors.
Vaut mieux ça que l'inverse, c'est sûr.
On est d'accord. Quoi d'autre ? Ah, mais vous savez quoi ? Il y a un truc super important que j'ai failli oublier de faire. C'est de vous dire merci à tous ceux qui écoutent aujourd'hui l'émission et surtout à ceux qui choisissent de la soutenir. Comme je le disais tout à l'heure, il y a Benfer et Razi qui sont devenus nouveaux patriotes. Il y a Claude Girel qui est producteur depuis un moment. Eh bien, vous pourriez vous aussi participer à cette formidable aventure qui est le fait de donner des sous à Patrick pour qu'il puisse vivre de son métier. Et ça, c'est une initiative qui me paraît, je suis peut-être un peu biaisé, mais assez noble. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on vous informe de manière distrayante et qu'on vous fait passer un bon moment, eh bien, vous pourrez attribuer un petit euro, deux petits euros à l'émission. Et vous auriez en plus tout plein de superbes bonus, comme par exemple les éditos que je fais régulièrement. Je viens d'en faire un sur l'évolution justement financière et les tendances de mon activité. Donc, je vous fais rentrer un petit peu derrière les livres de compte. Alors, je ne donne pas tous les chiffres, hein, mais je vous donne les tendances. Et puis, il y a les after-shows qui sont des petits contenus bonus sympathiques. Il y a les time codes dans les notes de l'émission pour si vous voulez passer à un moment différent d'un sujet qu'on traite. Et puis, il y a bien sûr aussi zéro pub dans le flux privé. Bref. C'est un truc plutôt cool à faire, je pense. Si vous pouvez vous le permettre, je vous encouragerai à aller sur patreon.com/rdvjeux pour voir ce que ça donne. patreon.com/rdvjeux, le nom et le lien est dans l'émission. Et comme on le fait remarquer dans la chatroom, Ludostri est sur Patreon aussi. Vous pourriez faire d'une pierre deux coups. Vous créez un compte sur Patreon et vous soutenez presque tous vos créateurs préférés. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir du côté de Ludostri également, une ressource sans équivalent au niveau valeur informative et analytique dans le monde du jeu vidéo. Si vous ne l'avez pas compris, Ludostri, c'est le site et le Patreon d'Oscar, ici présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Merci.
Mais je t'en prie, c'est mérité. Alors, de quoi qu'on va parler ensuite ? On va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Mais avant ça, un petit PSA, Public Service Announcement. Si vous comptez acheter Horizon Forbidden West, qui commence à s'approcher là, eh bien, il sort le 17, hein, c'est dans une semaine, la semaine prochaine. Si vous comptez l'acheter, eh bien, sachez que en achetant la version PS4, vous recevrez aussi la version PS5. C'est ça, ce qu'a promis Jim Ryan. Je ne vais pas vous refaire tous les détails, mais ce n'est pas du tout indiqué sur le store. La version PS4 inclut la version PS5 et la version PS5 coûte 10€ de plus. Ils ne vous le disent pas du tout dans la version PS4. Ils essayent de cacher un peu l'information pour en vendre autant que possible en version PS5. Mais la version PS4 inclura bien la version PS5 également. Donc, si vous comptez l'acheter, dirigez-vous non pas sur le store PS5. On ne peut pas l'avoir. Donc, il faut passer par le web ou ce genre de choses. Et vous chopez la version PS4. Et on imagine qu'au moment de la sortie, la version PS5 sera ajoutée à votre compte à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas.
C'est un truc marrant cette histoire parce que ça vient d'un cafouillage de com en fait parce que leur idée à la base c'était vu que c'est 10€ plus cher sur PS5, leur idée c'était de dire si vous avez la version PS4 vous pouvez avoir la version PS5 mais il faut payer 10€ en plus. Et sauf qu'il y a eu un problème dans la com où à un moment ils ont promis que on aurait automatiquement la version PS5, du coup ils ont été obligés de le faire. Ce qui donne ce résultat un peu étrange, mais c'est vraiment spécifique à ce jeu-là. Les autres jeux, genre Gran Turismo, ce ne sera pas le cas. Il faudra payer 10€ en plus pour avoir la version PS5.
En fait, c'était les jeux qui étaient censés sortir autour de la fenêtre de lancement de la console, ou on va dire dans l'année, où ils disaient « Bien sûr, vous aurez les deux au même prix, machin. » Et effectivement, vu qu'il a été décalé de 6 mois, 1 an... Ils ont fini par dire, ils ont essayé de le faire passer en douce, tu sais. Ils ont essayé de dire, la version PS4 coûtera tant, la version PS5 coûtera tant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on a commencé à voir des images et des vidéos de la version PS4 qu'ils ont montrées. Ça a l'air très beau, mais n'oubliez pas qu'on ne sait pas comment il va tourner sur PS4. Et sur PS4 Pro, on imagine que ça sera bien. Donc peut-être, avant de l'acheter, même attendez les premiers tests pour s'assurer que ça tourne bien. Il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas bien, parce que le premier tournait très bien et il était déjà très beau. Mais juste, dans le Public Service Announcement, c'est important de s'en souvenir aussi.
Écoute, tu viens de me faire économiser 10€, Patrick. Je te remercie.
Tu sais ce que tu pourrais faire, Iska ?
Dis-moi, les mettre sur le Patreon.
Écoute, moi je dis ça.
je m'apprêtais à le précommander chez Micromania. Je sais jamais. Ouais, on peut dire les noms de.
Oui, bien sûr. Pas de souci.
Pour profiter d'une offre de revente et j'allais le payer au prix fort de la PS5 et je vais profiter de leur offre de revente sur la PS4 qui a priori est bien 10€ moins cher.
Tout à fait. Et il faudra bien sûr avoir le disque de la version PS4 quand tu joues à la version PS5 si tu l'as en physique, dans la console, mais tout de même.
Ouais, c'est classique ça.
Justement, tiens, Eska, à quoi est-ce que tu es en train de jouer en ce moment ? Moi, je parlerai de Lost Ark et Sifu juste après mes invités. Mais en ce moment, c'est le festival des jeux un petit peu plus anciens. À quoi tu joues, dis-moi ?
Alors, j'ai enfin fini Eastward sur Switch. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter et ailleurs, mais au global, je suis assez déçue. Je trouve que c'est un jeu qui n'est très bon en rien et moyen en tout, et je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi narratif, je m'attendais pas à des phases de gameplay de ce type là. Moi, je dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste que moi, j'ai pas accroché comme je l'aurais souhaité. Et je pense qu'encore une fois, je m'attendais vraiment pas à ça. Et en plus de ça, ça s'adressait, je pense, à un public qui avait joué au Mother, parce qu'il y a énormément de clins d'œil, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je pense que je suis passée à côté d'une grosse partie du jeu. Donc voilà, et puis il y a un twist scénaristique à la fin, complètement what the fuck, qui est exactement ce que je n'arrive plus à supporter dans les RPG asiatiques. Alors je vais pas dire JRPG parce qu'en l'occurrence c'est un jeu chinois, mais voilà, je suis vraiment restée sur ma faim. Heureusement, je joue à un autre jeu auquel
j'ai. Entre parenthèses, il y a Mother qui arrive sur Switch, donc tu pourras peut-être là choper les références en inversé.
Ouais, non, j'ai pas envie. Ça m'a pas du tout donné envie. Mais heureusement, enfin voilà, je joue à d'autres jeux auxquels j'accroche beaucoup plus. Le premier étant Guardians of the Galaxy sur PS5, qui est vraiment la bonne surprise pour moi. Je m'attendais pas à accrocher autant. C'était mon cadeau de Noël et je passe un super moment.
Eh ben, c'est vraiment... tu vois, c'est pas faute de pas l'avoir défendu, hein.
Ah non, mais de toute façon, vous m'aviez donné envie d'y jouer, donc c'était prévu que j'y joue. Et effectivement, je trouve que c'est... Enfin, moi, je passe un super moment. La musique, elle est juste géniale. Il n'y a rien à acheter entre la playlist qu'ils ont fait et l'OST du jeu. Enfin, puis je trouve que c'est bien écrit, ça, vous l'aviez déjà dit. Enfin, vraiment un gros, gros plaisir sur ce jeu. Et donc, pour anticiper l'achat de Horizon Forbidden West, j'ai acheté un jeu qui est dans la liste des jeux que tu peux revendre pour profiter de moins cher chez Micromania et auquel je voulais jouer depuis longtemps, qui est Kena Bridge of Spirits.
Ah ouais.
Et alors là, bah, pareil, j'adore, quoi. Enfin, je suis émerveillée par l'univers. Alors, on est un petit peu dans du Ghibli, enfin des univers très verdoyants avec des petits esprits. C'est dans l'ensemble très mignon avec c'est un mélange entre une fable écolo et bon, il y a beaucoup de choses. C'est pas ultra original, mais moi je suis complètement embarquée par par l'univers, donc le mélange de l'histoire, les personnages, le visuel, enfin la DA, la musique. Vraiment, c'est un immense plaisir ce jeu. Je suis dans ma petite bulle, j'ai l'impression d'être dans un film d'animation. Ça me sort complètement de mon quotidien. Très très belle surprise. C'est un jeu qui est au-delà de mes espérances par rapport aux attentes que j'en avais, quoi.
C'est un jeu, je crois qu'on l'avait décrit, je ne sais plus qui avait donné cette description, mais c'est très juste. C'est un jeu qui est plus que la somme de ses qualités. Au final, ça fait un mélange qui... Tu ne peux pas vraiment expliquer genre ça c'est super, cet élément c'est génial, le gameplay est incroyable et original, machin. Non, tout est classique, mais tellement bien fait qu'au final, c'est plus que l'analyse objective quoi, des qualités du jeu. Donc.
Et puis, je trouve que c'est un jeu qui... J'ai l'impression vraiment qu'il y a de l'humilité derrière ce jeu-là. C'est pas un jeu qui se prend pour plus qu'il n'est. Ouais. Et ça se ressent, je trouve, dans le jeu. Il y a vraiment une approche assez humble. Comme tu dis, c'est pas un jeu qui est là pour révolutionner les choses. C'est un jeu qui arrivait en toute simplicité, qui avait pas vocation peut-être à avoir le succès critique qu'il a eu. Alors, je suis pas sûre qu'au niveau des ventes, ce soit complètement dingue.
Non, je crois qu'il s'est pas trop mal vendu quand même.
Voilà, mais bon, c'est pas le jeu qui va faire des millions et des millions d'exemplaires, j'imagine. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu plein de qualités et qui n'est pas arrivé avec ses gros sabots. Et ça, je trouve que ça n'arrive pas souvent et ça fait plaisir quand ça arrive, quoi.
Assez d'accord. Du coup, on passe à Oscar, qui lui aussi joue à des jeux un petit peu plus anciens. Et du coup, tu t'es mis à Untitled Goose Game, c'est ça ?
Oui, voilà, oui, j'ai un peu de retard, mais je me suis lancé dedans il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est très bien, hein. Je pense que je n'aurais pas grand-chose à rajouter de ce qui a été beaucoup dit sur ce jeu. Typiquement dans le genre pas prétentieux, là aussi on est dedans et en même temps ça fait très bien. C'est une proposition très bien maîtrisée de jeu bac à sable un peu quoi. Ouais. Donc ça c'est très plaisant. Et ça marche très bien pour jouer, j'y joue avec ma fille du coup.
Ah ouais.
Et c'est très sympa pour ça aussi.
Moi j'ai un peu joué avec mon fils, qui est plus jeune que ta fille, et qui s'est beaucoup amusé à jouer loi et à faire ses coins-coins. Ce qu'il a pour lui aussi, c'est qu'il est, contrairement à Kenna, justement assez original comme approche. C'est un truc que tu n'as jamais vu, qui est drôle, qui est bon. Ça reste un jeu d'une grande qualité.
Oui, mais c'est le gosse.
Oui, c'est mais, ça.
Alors, oui.
Mais en fait, ça plaît aux enfants.
Oui, effectivement. Mais alors, c'est original, mais en même temps, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc révolutionnaire qui va. C'est une petite idée et qui a pas un potentiel non plus extraordinaire. Et le jeu se limite à bien exploiter ce truc-là et à donner un petit truc sympa et fonctionnel, ouais. et bien foutu, quoi.
Non, mais c'est le contexte qui est original. Le fait de jouer une noix qui va aller faire chier les gens, tu vois, même si mécaniquement, c'est des trucs peut-être qu'on aurait pu déjà imaginer. Le fait que tu le fasses en étant loi qui va voler les chaussettes des gens, c'est rigolo, quoi. Ça apporte quelque chose. Et tu joues à Yooka-Laylee aussi, je me souviens même plus quand il est sorti celui-là.
Ouais, ça date vraiment, et ça, c'est, bah, ça pour le coup, c'est vraiment pas terrible.
Ah ouais ?
Ouais, non, mais ça, mais je le savais un peu, mais comme je suis un grand fan de jeux de plateforme, j'avais quand même envie de le tester et découvrir par moi-même que effectivement c'est. c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est, et ça, c'est, pour le coup, c'est vraiment, c'est juste un problème purement qualitatif, quoi, et à tous les niveaux, quoi, en termes de gameplay, en termes de caméra, en termes de décor, d'objectifs, de level design. Enfin, rien n'est catastrophique non plus, mais rien n'est vraiment bien, quoi, n'est vraiment réussi. Et du coup, bon, bah, c'est voilà, je le recommande pas du tout.
C'est pas au niveau des Banjo-Kazooie de l'époque, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est tu sens que ouais, c'est enfin je alors c'est toujours difficile à juger ça parce que moi j'ai le facteur nostalgie, mais je pense même que il vaut mieux jouer au Banjo-Kazooie d'époque plutôt que de jouer à ça, quoi.
D'accord. Bon, bah écoute, jeu de quand il est sorti, en 2018, je crois, quelque chose comme ça, 2017. C'est ça, 2017. Donc, bon. Si vous aviez un backlog qui incluait Yooka-Laylee, vous pouvez peut-être passer à un autre jeu.
Par contre, je crois, alors je l'ai pas fait, mais je crois que sa suite, qui est en 2D, est pour le coup bien mieux réussie. Ouais.
Bah voilà, peut-être essayer le deuxième plutôt que le premier. Alors, les jeux un petit peu plus récents. Il y en a deux dont j'aimerais vous parler, auxquels j'ai joué un certain temps. Le premier, on va peut-être commencer par Lost Ark. Je ne sais pas si on garde le pire ou le meilleur pour la fin. On va commencer par Lost Ark et je vous parlerai de Sifu ensuite. Lost Ark, c'est un jeu qui est assez ancien, puisqu'il a été lancé il y a 3 ou 4 ans en Corée, mais qui vient d'arriver chez nous, édité par Amazon, et qui est un hack and slash, mais en MMORPG. Et donc, c'est un jeu coréen qui a été adapté pour sa sortie en Europe, en Occident plutôt, et qui a été un énorme succès sur Steam déjà, avant même le lancement en free-to-play qui arrive demain, je crois, le 11. Eh bien, il était possible de payer, à partir de 15 euros, on pouvait y avoir accès dès le 8. Et il était dans les... Alors, je ne me souviens plus exactement à quelle place, mais dans le top 10 des jeux les plus joués, déjà, donc, avant sa sortie en free-to-play. Entre parenthèses, si les Belges et les Hollandais se demandent pourquoi il n'est pas disponible chez eux, c'est parce qu'il contient des lootbox et il est donc interdit à la vente dans ces pays. D'après la première préoccupation qu'on pourrait avoir, c'est: est-ce que c'est un jeu pay-to-win ? D'après tous ceux qui y ont passé du temps, visiblement, c'est pas le cas. Il y a quand même un rythme assez raisonnable pour le jeu et c'est pas une grosse préoccupation, l'aspect pay-to-win. Enfin, moi, je ne l'ai pas testé moi-même, mais le consensus semble assez clair et il a été en particulier adapté pour l'Occident. Donc, c'est un petit peu moins lourd à ce niveau-là que ça aurait pu l'être en Asie et en Corée. Donc, c'est un Diablo-like en version MMO RPG, mais vraiment MMORPG. Moi, je l'attendais parce que graphiquement et au niveau des animations, il est vraiment sympa. Il a vraiment un aspect hyper dynamique et hyper fun. Quand tu vois les coups spéciaux, les skills à l'écran, tu dis non, mais il faut que je joue à ça, quoi. Ça a l'air super badass, ça détruit tout, c'est super fun. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce point MMORPG. C'est vraiment pas du tout un jeu type action arcade comme un Diablo. On n'est pas dans un Diablo qui aurait augmenté un petit peu la composante multijoueur. C'est un MMORPG à fond MMORPG, mais dont les contrôles ne sont pas troisième personne ou comme les MMO classiques, mais vraiment, les contrôles sont... Enfin, la vue, la perspective est vue de dessus, 3D isométrique, enfin 3D... vue de troisième personne, mais bien reculée, comme dans un Diablo. Et ça commence avec le classique histoire, on est un élu qui doit retrouver un trésor caché pour nous sauver des démons, et on va suivre on va arriver dans une petite ville au départ, et puis on va aller devoir... tuer les méchants voleurs qui terrorisent la ville juste à côté, dans la petite zone à côté, etc. Et donc l'approche, il ne faut pas penser que c'est un truc auquel on va pouvoir, a priori, jouer un petit peu et s'arrêter. C'est approche MMORPG dans lequel il faut passer des heures et des heures. Et l'autre chose qui m'a un petit peu surpris, je dirais, c'est à quel point on est lâché. On est lâché au milieu du truc et on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Et le système de gameplay qui, d'après tous les fans, est vraiment super bien foutu, intéressant, complexe et profond, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais on commence au niveau 10 tout de suite. Peut-être que c'est parce que j'ai acheté l'accès anticipé, enfin l'accès premium founder, machin. Mais bon sang, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe et de comprendre les différentes capacités et comment elles fonctionnent. Et à tel point que, au bout de quelques heures, je me disais, mais je comprends rien, quoi. C'est pas fun parce que je sais pas comment fonctionnent les sorts. Moi, je me suis dit, au départ, on va avoir quelques sorts, un ou deux, et puis au fur et à mesure, ça va en ajouter au moins une fois par niveau. Mais en fait, non. On a 5, 6, 7 sorts dès le départ et on ne sait pas la différence entre les sorts, la manière dont ils sont activés, etc. Et donc, jusqu'à ce que je trouve la salle d'entraînement qui est accessible qu'au bout de une heure et demie de jeu, je me suis dit, mais je ne comprends juste rien, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Et quand j'ai trouvé la salle d'entraînement, bah dans la salle d'entraînement, ils expliquent les différents types de capacités, les différentes mécaniques des capacités. C'est-à-dire qu'il y en a où il faut appuyer une ou deux ou trois fois pour dépenser les charges de chaque capacité. Il y en a où il faut laisser appuyer pour l'utiliser sur la longueur, sur une durée de 4 ou 5 secondes. Il y en a où il faut appuyer une fois, puis rappuyer en ciblant, mais rappuyer sur le bouton du sort pour... l'utiliser à tel ou tel endroit. C'est pas des trucs compliqués, mais il y en a tellement qu'on nous envoie dans la figure au départ qu'on est vraiment un petit peu perdu. Et c'est vrai aussi pour l'interface du jeu et tous les systèmes. Il y en a des tonnes. C'est-à-dire que il y a des familiers, des montures, des équipements évidemment, pour les talents. Alors, il y a des talents généraux pour votre compte, qui sont partagés entre tous les joueurs. Il y a aussi, qui sont assez faciles à comprendre, mais il y a aussi pour chaque sort, on peut les faire monter de niveau pour chaque capacité. Et quand on monte une capacité de niveau, on va pouvoir débloquer des arbres de talents par capacité. Et c'est vraiment, on dit en anglais, « overwhelming ». C'est overwhelming. Il y a aussi un système de navigation avec des bateaux, il y a des maisons, des îles pour chaque personnage. On peut construire notre île, il y a du crafting évidemment. Enfin, c'est vraiment complexe. C'est le genre de truc, j'ai l'impression, où il faut s'investir beaucoup pour en tirer ce qu'il a à offrir. C'est pas du tout un petit truc arcade.
J'avais lu qu'en termes de théorie crafting, etc., c'était plus proche d'un Path of Exile que d'un Diablo, du coup, et que ça pouvait décourager effectivement les joueurs qui s'attendaient à une expérience hack and slash un peu esservelée. Et je dis ça avec énormément de tendresse parce que moi, c'est ce genre d'expérience-là que je préfère.
Bah, c'est un peu mon impression aussi. Moi, je me disais, ah cool, je vais avoir un Diablo pour me défouler. Et j'ai découvert un truc avec beaucoup plus de profondeur que ce à quoi je m'attendais, ce qui est très bien pour certains joueurs, mais pour quelqu'un dans ma situation, ce n'est pas forcément ce que je voulais et ce que je peux me permettre de faire. C'est pas aussi poussé que Path of Exile. Hein. C'est plus segmenté. C'est pas un énorme arbre de talent qui couvre 14 kilomètres de surface, tu vois, 14 kilomètres carrés de surface. C'est un petit arbre de talent par capacité. Mais oui, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a les objets qui t'équipent, évidemment. Il y a des objets de combat qui sont des grenades ou des potions, ce genre de trucs qui sont assez précieux. Et oui, c'est un truc... Je dirais que tu peux le prendre en main tout à fait. C'est pas que ça va te... Il faut y mettre le temps, voilà. J'ai l'impression que c'est un truc auquel il faut mettre le temps.
À t'écouter ton... Parce qu'au final, tu nous dis pas si t'as pris du plaisir à jouer. J'ai l'impression que ton plaisir de jeu a été un peu écrasé par toutes ces fonctionnalités très complexes qui peuvent être une richesse de jeu, mais qui, du coup, te font dire que si tu veux toutes les exploiter pour profiter à fond du jeu, ça va être trop chronophage, trop prenant.
Bah, pour moi, oui, je pense clairement. Sur la question, est-ce que j'y ai pris du plaisir au départ, je dirais non. Parce que je comprenais pas ce que je faisais, en fait. Il y avait trop de capacités, j'appuyais juste sur tous les boutons. Évidemment, au premier niveau, on est imbattable. Donc, j'appuyais juste sur tous les boutons et j'attendais que les trucs explosent. Et c'est ce qui se passait, mais j'aurais appuyé sur un bouton, c'était pareil que si j'appuyais sur l'autre, tu vois. Mais quand j'ai commencé à comprendre, je peux voir qu'au bout d'un certain nombre de niveaux et quand les monstres seront plus compliqués, plus difficiles, il y aura une vraie stratégie dans le gameplay, qu'il y a une profondeur dans le jeu qui est attirante. Mais pour aller fouiller jusqu'à l'obtenir, il faut y investir beaucoup de temps, quoi. Donc, et c'est un jeu gratuit, donc tout le monde peut l'essayer, mais c'est mon impression comme ça à la base. J'ai trop d'autres choses auxquelles jouer, je crois, pour bien investir.
Ouais, je comprends, et du coup ça répond un peu à la question, parce que moi j'hésitais aussi à m'y mettre, parce que je voyais beaucoup de gens en parler, et que je pense que tout comme toi, c'est les Diablo-like, j'adore ça, mais j'ai peur d'avoir le même ressenti que toi, et au final de très vite abandonner en me disant que de toute façon, j'exploiterai jamais le jeu assez correctement pour dire de...
Je pense que c'est ça. C'est exactement le genre de jeu qui devient ton jeu marital. En ce sens que tu es marié au jeu et tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre pendant que tu es marié à ce jeu-là parce que tu n'as juste pas le temps. Tu es trop investi dans la relation avec ce jeu. C'est comme tous les MMO de ce style-là, quoi. C'est ton jeu et il n'y en a pas d'autre. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et puis accessoirement, il y a les modèles des femmes dans le jeu, en particulier c'est une sorte d'assassin, elle dandine du cul, mais c'est insupportable. Insupportable.
Je pense que c'est un des aspects du jeu qui, quand j'ai regardé le site web, ça m'a vraiment buté.
Enfin bon. L'autre jeu dont je voudrais vous parler, c'est Sifu. Sifu, qui est extrêmement controversé, j'ose le terme, et que certains ont vraiment pas du tout apprécié. Alors, deux choses que je vais évacuer très très vite. D'une part, il était censé être disponible dimanche à 2h, 1h de l'après-midi, et il a été retardé de plusieurs heures pour les gens qui avaient payé la version super deluxe, machin. Et c'était frustrant parce que deux jours ou trois jours plus tard, il était disponible en théorie pour tout le monde. Et là, il a été retardé. Enfin, il n'était pas disponible, on ne pouvait pas le télécharger sur PlayStation 5 si on avait payé 10€ de plus pour l'avoir plus tôt. Et quand notre temps est précieux, comme c'est mon cas, c'est forcément un peu frustrant. Bref, ça a été corrigé quelques heures après. L'autre truc, c'est cette controverse sur l'appropriation culturelle du jeu Et il y a beaucoup de sites américains qui ont critiqué le jeu parce qu'il n'était pas fait dans le respect de la culture qu'il explore et qu'il célèbre. Et c'est un truc qui est assez, dont on ne parle pas, l'appropriation culturelle en France et en Europe, et donc qui est très abrasif pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais ça va, attends, c'est un petit peu dans le ton, on ne peut plus rien dire. » Sauf que c'est le sentiment qui est partagé par beaucoup de gens. Et je comprends, parce que quand on n'a pas l'habitude de parler de ce genre de problème, quand on en entend parler la première fois, c'est un petit peu comme la première fois qu'on entend parler de questions de genre ou d'inclusivité ou ce genre de choses, on se dit « Non, mais attends, parce qu'on se sent accusé, quoi. » Mais concrètement, c'est un vrai problème, surtout quand on parle de culture, il y a un rapport de dominant à dominé. Et clairement, les développeurs n'ont pas... On fait des erreurs, on fait des fautes, des trucs qui te font dire... par exemple, ils ont... Dans le jeu, il y a plein d'exemples comme ça, mais je vais en donner un. Ils ont envoyé des packs à des influenceurs, des trucs comme ça, avec des objets genre inspirés de Sifu. Et c'est très clairement un jeu qui est plongé dans la culture chinoise. Hein. C'est chinois à fond. Et ils ont envoyé une théière, mais une théière de style japonais. Tu vois, c'est genre, oh, mais c'est bon, c'est l'Asie, c'est tout pareil. Il y a des problèmes entre le mandarin et le cantonais dans le jeu. Il y a des... C'est des petits trucs, mais quand on est conscient de la question d'appropriation culturelle, ça gêne un peu. Et je pense qu'il est légitime de le mentionner, de le signaler, et je crois que le consensus n'est pas du tout, donc le jeu est mauvais. C'est juste, ils auraient dû faire attention. Et à côté de ça, le jeu a aussi beaucoup de... Enfin, personne ne dit, vous ne pouvez pas aimer le jeu à cause de ça. Et justement, parlons un petit peu de... vous pouvez remonter sur mon fil Twitter, j'en ai parlé, j'ai expliqué, j'ai lié à des threads qui expliquent très bien pourquoi ça peut être un problème. Mais donc... Justement, passons au jeu lui-même. Le jeu est lui aussi un petit peu difficile à... comment dire ? Il est difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus par le jeu. Je regardais notamment, pendant que j'attendais qu'il soit enfin downloadable, la vidéo de test de Gotoz, le French YouTuber, où il disait qu'il avait été hyper déçu parce que ce n'est pas une expérience telle qu'il l'imaginait en voyant les trailers, c'est-à-dire une expérience arcade où on t'aide à devenir badass, mais que le jeu est très punitif à un point où ça en devient décourageant. Mais vraiment décourageant. Et c'est vrai que les mécaniques du jeu font pas de cadeaux, quoi. Comme vous le savez peut-être, Sifu, c'est un jeu donc d'action kung-fu. Le style s'appelle Pac-Me, je crois. C'est un style très sec, très violent, qui donne des impacts de coups qui sont très, très bien modélisés dans le jeu. Et on doit donc parcourir 5 niveaux différents, avec 5 boss à la fin, pour venger notre père et maître qui a été tué par une organisation criminelle. À chaque fois qu'on meurt, on peut se relever en prenant quelques années. Le nombre d'années augmente à chaque fois qu'on meurt, et on a en gros 5 chances de se relever. Et à chaque fois qu'on se relève, on est donc plus âgé, ça peut aller jusqu'à 70 ans, et un peu plus de 70 ans. Et ça réduit notre vie et ça augmente nos dégâts. Et donc, en plus de ça, les combats, on a intérêt à faire très attention. La comparaison avec les éternels, avec les Souls-like, n'est pas du tout usurpée, parce que si tu ne fais pas attention, un ennemi peut te tuer, même un ennemi de base, il te met 3 coups mal placés, tu tombes et tu meurs. Et en plus de ça, quand tu passes un des niveaux, comme je disais, il y en a 5, tu peux recommencer. Disons que tu passes du niveau 1 au niveau 2 en ayant 45 ans. Tu peux recommencer le niveau 2 si tu veux, si tu meurs au niveau 2, mais tu auras toujours 45 ans. C'est-à-dire que tu peux recommencer le niveau auquel tu es arrivé à l'âge où tu es arrivé et pas plus jeune. Donc, ça t'oblige à aller refaire le niveau précédent ou même les niveaux précédents pour essayer de faire un run où tu meurs moins et tu prends moins d'âge pour avoir encore de la marge dans les niveaux d'après. Et en plus de ça, le niveau 2 est visiblement encore plus dur que les niveaux suivants, donc ça semble hyper punitif quand tu as enfin atteint le niveau 1. Il y a des gens qui disent plus tu meurs, plus c'est difficile. Moi, je ne suis pas d'accord. La réduction de vie est assez minime. Au final, ça t'enlève quoi, 20% de vie, quelque chose comme ça, 15%, et tu fais plus de dégâts. Donc, il faut effectivement bien maîtriser le jeu, mais je ne trouve pas que ça soit tellement plus difficile. Décourageant, oui. Ça peut être décourageant, mais je ne trouve pas que ça soit beaucoup plus difficile. Maintenant, le jeu, à côté de ça, alors c'est vraiment, on est dans du Sekiro. C'est-à-dire qu'on a une barre de structure, ils appellent ça la structure, c'est la barre de parade, pour nous et pour les adversaires. Quand on part ou qu'on évite, ça fait monter notre barre. Quand elle arrive au maximum, notre garde est cassée, et donc on peut se prendre des gros coups, ça nous fait perdre des points de vie, etc. Pareil pour les ennemis. Quand on casse leur barre de structure, ça nous affiche un petit icône à l'écran. Et si on appuie sur les deux boutons, un petit peu comme un Arkham, Batman Arkham, bah on fait un takedown, on les finit. Et ça nous fait regagner un petit peu de points de vie. Donc ça, c'est les mécaniques du jeu. Et vous savez que je déteste les Soulsborne. Donc, vous pouvez peut-être imaginer ce que j'ai pensé du jeu. Parce que c'est des jeux qui ne sont pas pour moi. Je suis frustré et énervé plus que satisfait quand je réussis à finir un boss ou un niveau. Et donc, évidemment, cette mécanique, pour Sifu, a priori, bah, c'est la même que pour les autres jeux qui ont ce type d'approche. Eh bien, si vous pensez ça, vous vous tromperez. Parce que j'ai absolument adoré Sifu. Mais adoré. Alors, je ne l'ai pas fini, hein, loin de là. Mais tout dans le jeu est tellement bien conçu et bien réalisé, à part la fidélité et le respect de la culture qu'il représente, mais ça, c'est autre chose. C'est un plaisir de jouer et de réussir à faire ce qu'on veut faire. À tous les niveaux, artistique et gameplay, c'est réussi, je trouve. Artistique, la direction artistique et la colorisation sont parfaites. Tu as des ambiances super différentes dans chaque niveau et des ambiances qui te mettent dans l'ambiance du truc. C'est vraiment un film, genre, c'est un petit peu John Wick en version arts martiaux seulement, quoi. Et tu as l'impression d'être John Wick et quand la musique, les sons sont complètement fous. Les animations, comme on l'a vu dans les trailers, te donnent un impact que j'ai jamais vu dans aucun jeu avant, dans un jeu un beat'em all, jeu d'arts martiaux. Les takedowns environnementaux sont parfaits. Tu attrapes quelqu'un qui est presque mort. Tu peux, soit tu l'éclates par terre, soit tu lui mets la tête dans le mur, soit c'est hyper bien fait. Alors oui, la caméra est très frustrante parfois, mais pour moi, ça n'enlève pas la qualité de l'animation. Et quand tu arrives dans une zone, par exemple, le deuxième niveau, c'est un club. Il y a à un moment, tu arrives sur le dance floor du club et tu ouvres la porte de l'endroit où tu arrives. Tu ouvres la porte et puis la caméra se rapproche un peu et tu vois 15 personnes devant toi qui se retournent en mode saloon. Et là, c'est le showdown, quoi. Tu arrives, il y a la musique qui pulse avec la bonne musique de club et les basses qui te rentrent dans les muscles et tu arrives et au bout de quand tu maîtrises un tout petit peu en anglais on dirait you're gonna fuck them up et ton tuyau et tu t'approches et c'est bam, bam, t'en tues un, tu lui fais le takedown. Un autre, paf, paf, tu t'écartes un peu, t'évites les coups du mec qui arrive, tu te retournes, tu prends l'autre, tu le takedown, etc. C'est incroyable la sensation. Et Dieu sait que je ne suis pas client de ce genre de choses généralement. Et ça marche, mais à fond. Alors, je n'ai même pas fini le deuxième niveau. La première fois, je suis mort avant même d'arriver à la fin du premier. Mais au bout de 2-3 parties, je suis arrivé au deuxième à 27 ans, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est franchement pas mal pour quelqu'un comme moi. Et tu commences un petit peu à maîtriser. Et l'aspect presque speedrunning, parce que tu dois revenir au premier niveau pour le faire aussi bien que tu peux, c'est un truc qui me parle aussi. Tu commences à maîtriser le jeu et tu dis « Ok, je peux mieux faire ». Et tu reviens au premier niveau, tu le recommences et t'essayes de faire parfaitement parce que les ennemis sont toujours au même endroit. T'as des petits raccourcis si tu veux, t'as des bonus que tu peux prendre différemment. Et t'essayes de faire le meilleur parcours que tu peux. Une fois que t'as fait le premier niveau, tu vas essayer vraiment de passer le deuxième. Et c'est la même histoire. Enfin, ça fonctionne super, super bien. Alors, il y a des petits éléments un petit peu bizarres, genre les compétences que tu vas débloquer, il faut les débloquer avec de l'XP et tu dois les payer, entre guillemets, 5 fois pour les débloquer de manière permanente à la sauce roguelite. Et vraiment, pourquoi il faut les payer 5 fois? C'est maladroit comme design. À la limite, ils t'auraient donné des petites augmentations de puissance dans ces compétences, genre tu fais un petit peu plus de dégâts avec et au bout du 5e, tu le gardes pour toujours, même si tu recommences le niveau. Ok, ça aurait passé. Là, pourquoi faut le débloquer 5 fois? Bon, c'est pas très adroit, mais c'est pas si gênant que ça non plus, parce que tu te fais un run pour ça, et très rapidement, tu finis le premier niveau, tu débloques à peu près n'importe quelle compétence de manière permanente. Et à côté de ça, ces petits défauts qui sont réels, moi, je les trouve complètement anecdotiques par rapport aux qualités artistiques et gameplay du jeu. C'est pas du tout, si vous avez suivi Absolver de Slowclap, c'est pas du tout aussi complexe. C'est beaucoup plus simple à prendre en main et il faut juste faire attention, quoi. Enfin, ça peut être frustrant, mais il faut faire attention et ça fonctionne. Et du coup, pour moi, je dirais que déjà, on est quoi, début février, je dirais que c'est... Attention, Gotititi. Je pense que c'est potentiel GOTY et je m'y attendais pas du tout. C'est une vraie... Je jouais à Lost Ark, je me disais, bon, faut que je teste, faut que je joue un petit peu, et je pensais qu'à Sifu. J'avais envie de retourner jouer à Sifu, j'ai envie de retourner jouer à Sifu maintenant. Je sais pas pourquoi je suis en train de vous parler, je voudrais être en train de jouer à Sifu, moi. J'adore ce jeu. Donc voilà.
Mais tu sais que ça me fait la même chose pour Kena.
Ah ouais.
Et pour les gardiens aussi, ouais. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des jeux où quand j'éteignais la console déjà avec beaucoup de difficultés et j'y pensais après en me disant, putain, mais vite, qu'est-ce que je peux faire pour retourner vite jouer?
Tu sais, je pense que l'équipe de Slowclap, ils ont réussi un truc que j'avais jamais vu avant, qui est modéliser en jeu le sentiment de badasserie d'un... ils ont réussi à faire exactement ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire te donner le sentiment de badasserie de ces films-là, dont ils s'inspirent très clairement. Et j'adorerais les voir faire un jeu John Wick, par exemple, parce que c'est exactement ça. Bon, Oscar, est-ce que je t'ai convaincu qu'il faut aller tester Sifu quand t'auras fini le Kalele?
Ah, totalement. En fait, moi, je me pose une question. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que tu es un grand amateur de jeux de combat.
C'est vrai.
Et je pense que c'est l'axe où ça peut potentiellement biaiser ton avis, dans le sens où, c'est-à-dire que tu trouves ça accessible, mais tu t'y connais déjà bien en jeux de combat. Et moi, j'ai l'impression que le problème de Sifu, c'est que il est fait par des gens qui s'y connaissent très bien en jeux de combat aussi, et qui... Et qui font un truc, j'ai l'impression que comme tu le dis, quoi, qui est très intéressant, qui est très fort pour donner cette sensation de scène de combat de film, quoi. Mais que c'est un studio à qui il manque une culture d'accessibilité. Accessibilité dans le sens, les gens qui maîtrisent pas bien les codes du jeu de combat, qui puissent s'en sortir sans que ce soit trop frustrant. J'ai l'impression que c'est ça qui manque au studio et donc à ce jeu, quoi.
C'est possible.
Voilà.
Ouais, pardon.
Ouais, non, enfin, juste, moi du coup, les avis que je vois autour de jeu, ça me donne surtout la sensation que j'espère que ce studio va apprendre ça et que leur prochain jeu sera tout aussi intéressant, mais en ajoutant un peu plus d'accessibilité pour un public qui n'est pas expert en jeu de combat, quoi.
Peut-être qu'inconsciemment, ça joue pour moi, mais c'est des mécaniques qui sont assez différentes des jeux de combat habituels. C'est beaucoup plus un jeu d'action, tu sais, à la... Alors, très exigeant, mais je le comparerais plus à un truc du genre... Sekiro, clairement, ou, je sais pas, Devil May Cry, ou... Enfin, les jeux d'action à la troisième personne classique, mais version très exigeante. C'est beaucoup plus proche de ça, je trouve, que d'un jeu de combat, même s'il y a quelques mécaniques qui s'en rapprochent. Mais peut-être, oui, peut-être que ça joue, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que le studio a fait un jeu pour un public dont il s'est dit, moi, on veut faire un jeu pour ce public et tous les autres, on s'en fout, quoi. Il te prend jamais par la main, il t'invite pas à apprécier son jeu, il te met dans le truc et il te dit, si tu veux jouer, vas-y, sinon, va faire autre chose. Ça, je suis complètement d'accord.
Oui, et c'est ça que je trouve un peu dommage, mais en même temps, bon, peut-être qu'ils avaient besoin de passer par là, et que peut-être que essayer de faire un truc un peu plus ouvert, ce sera pour une autre fois.
John Wick, donc licence très connue, et dans ce style de jeu un petit peu plus ouvert, un petit peu plus accessible, ça serait parfait. Moi, je serais...
Oui, voilà. Totalement... Alors, clairement, si imaginons qu'ils fassent un John Wick, là, je pense qu'il y aura une certaine obligation à faire un truc plus ouvert, quoi.
On est d'accord. Bon, en tout cas, je suis l'un des rares qui a apprécié le jeu. Les tests sont généralement assez déçus. Et bon, bah, il en faut pour tout le monde. Hein. Mais comme quoi, si quelqu'un n'apprécie pas un jeu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour vous. Et en l'occurrence, je crois que Sifu est un peu pour moi. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On va passer rapidement sur les news restantes. D'abord, il y a eu un petit trailer, une gameplay démo de Ghostwire Tokyo, qui a une date également le 25 mars. Et j'avoue que j'ai été assez positivement surpris par le jeu. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais dans les 10 minutes qu'on en a vu, ça m'a donné envie, quoi. C'est dans Shibuya moderne, où les habitants ont disparu et il y a des sortes de monstres, de démons partout. Et on est en vue première personne, avec des armes parfois, mais surtout ces sortes de jutsu de ninja, là, qui envoient des trucs partout sur les ennemis. Ça a l'air hyper dynamique. Je suis assez intrigué. Je ne sais pas si vous avez vu ce gameplay, mais moi, ça m'a... J'étais pas très intéressé par le jeu, juste curieux, mais tout à coup, là, je le suis d'un petit peu plus près, quoi.
Non, mais c'est pas
c'est pas ton
genre
truc.
De jeu. Donc... Non. Ouais.
D'accord, écoute, peut-être que... Donc, tu n'es pas un ninja, c'est ça que tu es en train de nous dire.
Alors, il m'avait interpellé. Pardon, je suis en train de m'étrangler. Il me semble qu'il avait été annoncé à l'E3 il y a quelques... Il n'y a pas deux ans de ça,
un
an.
Tu peux boire un coup, hein. T'es pas non, obligé de te sacrifier pour dire que t'aimes les ninjas.
Tout va bien. Et la DA m'avait interpellé, mais c'est clairement pas... Comme si fou, c'est pas un jeu fait pour moi, malheureusement. Donc,
Très bien. Il y a également une news sur Stadia, qui serait en train de se focaliser beaucoup sur un service en marque blanche, de streaming, pardon. Ça m'a interpellé parce qu'il y a deux ans et demi, avant le lancement de Stadia, j'avais écrit un article sur Medium où je disais justement, en fait, je pense que Google, ils s'en foutent de Stadia, le service. Ils s'en foutent. Leur but ultime, c'est plutôt de créer un service en marque blanche parce que l'infrastructure est tellement chère pour faire ce genre de service de streaming de jeux vidéo. Il n'y a que une poignée de sociétés qui peut le faire. Et donc, il est beaucoup plus intéressant pour eux d'offrir ça en marque blanche à des sociétés comme, je sais pas, Capcom ou d'autres, plutôt que de faire leur service eux-mêmes, qui est très difficile à marketer, à atteindre les joueurs, tout ça. Mais ça reste un petit peu décevant que... En fait, la promesse de Google, en fait, ils y croyaient vraiment à leur truc qui était... Vous n'avez pas besoin de console, donc notre service est mieux. Vous pouvez acheter des jeux chez nous sans avoir besoin de console. On se disait, ouais, c'est un des avantages, mais il va y avoir d'autres choses qui vont faire. On entend toujours les fameux liens sur YouTube. Il y a genre un ou deux jeux qui peuvent faire ça, un lien pour jouer immédiatement. Non, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Et c'était juste, en fait, ils étaient convaincus que le fait de pouvoir acheter un jeu sans avoir besoin de console ou de PC, à un moment où tous les joueurs ont une console ou un PC... Bah, ça aurait suffi, et clairement, ça ne suffit pas. Alors, Stadia ne va pas disparaître tout de suite, mais ce n'est vraiment pas leur focus, et ils font un truc en marque blanche. Tu vois Stadia disparaître, toi, Oscar, après cette mésaventure ?
Oui et non. Enfin, disons que oui, peut-être que leur orientation B2B, ça peut marcher, mais, ouais, mais clairement, l'offre publique... Ouais, c'est mort, quoi.
Elle est dormante, quoi, on va dire, au mieux.
Ouais, non, moi, j'ai eu accès à certains chiffres des ventes sur Stadia. Enfin, c'est vraiment mais dérisoire, quoi. En fait, c'est même pas que c'est mort, en fait, c'est que ça a jamais vraiment commencé, quoi.
Ouais. Bon, décevant, mais la technologie, par contre, elle fonctionne toujours bien. C'est d'autant plus dommage que... Enfin, ça servira toujours, hein. Mais la qualité de Stadia était bien au-dessus du Xbox, du cloud, du xCloud, et à peu près équivalent au GeForce Now, qui est vraiment excellent. Donc, bon, ça servira à d'autres développeurs et éditeurs, on imagine. Parce que pour se désenchaîner des plateformes existantes, ça peut être une solution pour certains d'offrir en parallèle un service qui rend leur jeu accessible de partout, quoi. Oui, Microsoft a publié un petit document sur la manière dont ils vont considérer les App Store. Et c'est marrant parce qu'ils vont ouvrir tout ça. Oui, on peut faire ce qu'on veut avec nos App Store. C'est normal parce qu'il y a des régulations, enfin de la légifération en cours sur l'App Store iOS et Google Play, etc. Sauf que évidemment, ils disent oui, mais sur Xbox, c'est différent. Sur Xbox, on ne va pas permettre aux gens de payer avec un autre moyen de paiement que le nôtre, machin. En disant un truc qui est juste, hein, c'est que traditionnellement, le développement de plateformes de jeux, bah, c'est des gros investissements qui sont rentabilisés ensuite avec les commissions sur les ventes de tous les jeux. C'est vrai, mais c'est marrant qu'ils le disent. Oh, on est pas tout à fait, c'est pas pareil. Donc voilà. Bon, bref, je voulais le mentionner, mais plus intéressant que ça. Assassin's Creed, il y aurait une extension d'Assassin's Creed Valhalla, selon Bloomberg, qui aurait été transformée en jeu indépendant avec le personnage de Basim, qui était l'un des assassins de Valhalla. Et le jeu devrait sortir 2022 ou 2023. Donc un Assassin's Creed un petit peu recyclé qui pourrait arriver très bientôt. Et à côté de ça, on apprend que Beyond Good and Evil 2 est encore en pré-production. Ils n'ont toujours pas commencé la production sur ce jeu qui avait été annoncé il y a quoi, 4 ans 5 ans 4 ans 2017. C'est ça. Bon, on ne sait pas ce qui se passe chez Ubisoft. Enfin, si, peut-être qu'on sait ce qui se passe, mais les gars, va falloir... Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais... J'ai entendu une voix fantomatique qui disait des trucs. Bon. On va faire un épisode sans mentionner ça. Quoi d'autre ? Microsoft a confirmé dans le... Oui, j'aurais dû le dire à ce moment. Ils ont confirmé dans leur message sur leur blog que Call of Duty resterait disponible sur PlayStation au-delà même des accords contractuels existants. Donc, au-delà des 2 années à venir, Call of Duty restera sur PlayStation. Moi, je reste convaincu que pour ce genre de jeu, c'est un avantage stratégique de les avoir sur le Game Pass, de la même manière que Destiny, qui est un jeu service, c'est un avantage stratégique de l'avoir sur le projet Spartacus de Sony. Enfin, un avantage. Ça peut fonctionner de le laisser sur toutes les plateformes et de l'avoir inclus dans votre service d'abonnement à vous. C'est votre exclu, pas sur la plateforme, mais de votre service d'abonnement. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ces choix-là, à la fois chez Microsoft et chez Sony. C'est marrant de voir qu'au moment de Bethesda, bon, ils ont dit quand même comment il s'appelle, Starfield et Skyrim 2, Elder Scrolls 6, ils seront exclus quand même. Hein. On ne va pas appliquer quand même cette doctrine à tout le monde, il ne faut pas déconner. Et puis, quoi d'autre ? Vous aimez les podcasts ? Oscar, dis-moi, est-ce que tu t'es précipité sur le podcast de Hideo Kojima ? Qui est sur, c'est quoi, Audible, je crois.
Alors, non, ça a commencé, là.
Je crois qu'il a été lancé il y a hier, quelque chose comme ça. En tout cas, il est prévu, s'il n'est pas encore disponible. J'imagine que c'est en japonais, hein, mais...
Ouais, voilà, c'est ça, c'est en anglais, ou... Enfin, il y a une version anglaise, ou pas ?
Ah non, c'est du japonais.
Non.
C'est...
Ouais, voilà, ouais, bah, du coup, non, bah, je ne parle pas japonais.
Mais c'est pour les vrais.
Mais c'est pour le plaisir d'entendre la voix de Hideo. C'est... Non, tu ne fais pas partie des gens qui...
Écoute, je j'apprécie beaucoup ces jeux, mais, mais non, sa voix n'a aucun effet particulier sur moi.
D'accord, bon, je suis déçu, je pensais que tu étais un vrai fan. Mais bon, c'est Hideo Kojima's Radioverse qui est disponible sur Audible. Excellent service à côté de ça. On nous rappelle aussi, Cassim, dans la chatroom, que Call of Duty devrait même arriver sur Switch, il semble. Comme quoi... tout arrive. On a les nominations des Pégases pour l'édition 2022 des Pégases, la cérémonie des jeux de l'année en France. Alors, il y a beaucoup de jeux français, évidemment, puisque c'est de ça que ça parle. Mais pourquoi est-ce que Gamekult ne garde pas mon abonnement ? Je suis abonné, je peux lire ces articles. À chaque fois, il faut que je reclique sur mon compte.
Ouais, j'ai le même problème.
Ouais,
je pense.
Pardon, Oscar ?
Actualise juste, il me semble.
Oui.
En général, okay. Ça fonctionne.
D'accord. Deathloop, jeu français. Bon, c'est un petit peu. Après, il y a Road 96, Edge of Eternity, etc., etc. Et puis, par contre, dans les jeux étrangers, c'était un petit peu étrange les choix. Pourquoi pas ? Mais il y a des jeux comme. Alors, attendez. Lego Star Wars. Non, ça, c'est mobile. Chicory, Colorful Tale. Oddworld Soulstorm et The Forgotten City. Alors, Chicory et The Forgotten City, c'est des jeux très intéressants. Oddworld, je suis un peu moins sûr, mais je suis surpris que ça soit les meilleurs jeux vidéo qu'aient trouvé les Pégases. En même temps, je fais partie de l'Académie, donc j'aurais peut-être pu voter, mais bon, c'est...
Non, en fait, c'est parce qu'en fait, le problème, particulièrement pour les prix, pour les studios étrangers, c'est qu'il faut payer pour être parmi les nommés.
Ah, c'est pour ça, tout ça.
Et du coup, ça implique une démarche de la part du studio. Et je pense que, mais y compris les studios qui ont les moyens de payer ça, parce que ce n'est pas non plus une dépense. Enfin, ça peut peser pour un petit studio, mais voilà. Et je pense qu'il y en a plein qui se disent c'est quoi ce truc, on n'a jamais entendu parler. Non, enfin, tu vois, ils ont même pas dû répondre aux mails, tu vois, un truc comme ça. Voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que, en fait, voilà. Du coup, ceux qui sont présents, c'est ceux qui ont accepté de payer, quoi. C'est ça le truc, quoi.
Tout s'explique. Et
on s'est payé combien ou pas?
Oui, bah, je l'ai plus en tête, mais ça se compte en centaines d'euros, un truc comme ça.
J'imagine.
D'accord.
Je sais plus exactement. Enfin, ça se trouve. Hein.
Mais écoutez, ça me donne l'occasion de rappeler que Curse of the Dead Gods est un excellent roguelite que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'en remets une petite couche. Curse of the Dead Gods, c'est très très bien. Et quoi d'autre ? Puisqu'on parle de Gamekult, tiens, il y a une excellente enquête de l'ami Virgile sur Micromania et la manière dont fonctionnent les pressions commerciales dans les magasins. Est-ce que ça pousse les joueurs à faire ? Alors, c'est une enquête qui est évidemment pour laquelle il faut être membre de Gamekult, mais si c'est votre cas, je vous encourage à aller la lire. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans. On n'est pas dans le ton accusateur ou péremptoire. C'est vraiment une enquête au sens journalistique du terme, essayer de voir comment ça fonctionne, les conséquences que ça peut avoir. Il y a des échos de différents côtés, des gens qui expliquent pourquoi ça peut amener à telle situation. Mais il y a des choses super intéressantes sur les garanties qu'ils offrent pour les jeux, genre les jeux indestructibles et comment les vendeurs étaient poussés à l'ajouter, à la vendre, faire un petit peu du forcing, pourquoi ça marchait avec certains, comment il y en avait qui trichaient, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vous encourage à aller la lire si vous êtes abonné Gamekult et à soutenir ce type d'initiative. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec moi. Avant de se quitter, évidemment, on peut vous donner un petit moment pour nous dire où on peut vous retrouver. Je mets en fond sur Twitch l'article de Ludo Stry sur l'affaire Game Freak que tu as été poussé à faire par les controverses du récent Pokémon, Oscar.
Oui, effectivement, oui, c'est une sorte de tentative d'expliquer la situation particulière dans laquelle se trouve Game Freak pour faire ses Pokémon, et ce qui fait qu'ils ont du mal à faire des jeux techniquement évolués malgré tout l'argent qu'il y a avec ces jeux, quoi.
Ouais, très intéressant, que je vous encourage à aller lire. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, Oscar ?
Et du coup, sur Ludostri, sur Ludostri et aussi un peu sur Gamekult, vu que désormais je suis rentré en concurrence, mon cher Patrick.
Mais oui, avec le père et le maire, bien sûr.
Voilà. donc qui a un podcast, enfin alors qui a un podcast qui n'a pas encore de flux RSS, donc je sais pas si on a le droit d'appeler ça un podcast.
Non, il y a la police des podcasts qui va débarquer. Fais voilà. Pas ça. Fais attention.
Donc une émission audio, une émission audio qui est disponible à la fois sur Gamekult et sur Ludostri, mensuel, où on revient sur des sujets par rapport à l'économie du jeu vidéo.
Et tout à fait super intéressant également. Avec le perfide Albion, d'où le père et le maire. Excellent jeu de mots. Merci Oscar d'avoir été avec nous. On mettra évidemment le lien vers ton compte Twitter pour ceux qui veulent retrouver tout ce dont on a parlé dans l'émission. Escarina, où es-tu sur Internet ?
Eh bien, écoute, quand je ne suis pas derrière ma PS5, du coup, je suis sur Twitter, escarina _, sur KissMyGeek, et on a bientôt un petit épisode de Super Gamerside qui devrait sortir. Voilà, voilà.
Et Super Gamerside, qui est au rendez-vous jeu. Est-ce qu'on peut dire ce que l'apéro du Capitaine est au rendez-vous tech? Ou c'est, je pousse un peu trop loin quand même?
C'est pas mal, ouais. Ou ce que les grosses têtes est au JT de je sais pas. Non, l'apéro du Capitaine, moi, ça me va. C'est, je les aime beaucoup. Donc.
D'accord, très bien. Bah, on va
on
dire
nous a souvent
ça.
Demandé un crossover, d'ailleurs.
ça risquerait. Pas, tu sais, c'est dangereux, ça. C'est le genre de truc, une force inarrêtable avec un objet immuable, ça détruit l'univers.
Il ne faut jamais croiser les flux, c'est trop dangereux.
C'est ça, exactement. Bon, merci Escarina d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notpatrick.com. Il y a les liens vers les podcasts et également vers le Patreon, qui est aussi sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pouvez donc soutenir l'émission en passant par le Patreon et avoir tous les bonus dont je parlais, le plaisir, la satisfaction d'être un soutien du rendez-vous jeu et aussi l'accès aux after-shows. Alors, on va voir s'il y a des gens qui vont être présents dans l'after-show aujourd'hui pour nous dire à quel jeu ils jouent en ce moment. Et bah, on va voir ça tout de suite pour ceux qui sont patriotes. Et pour tous les autres, eh bien, je vous propose de nous retrouver dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.